J'ai commencé par une prière. Abba Père, notre Père céleste bien-aimé, nous te remettons cette heure de partage de ces deux versets de l'apôtre Paul, Seigneur, que vraiment chacun de nous puisse être encouragé par l'enseignement que Paul nous exhorte et que vraiment tu disposes notre cœur pour que moi qui enseigne et que les frères et sœurs qui écoutent, Seigneur, puissent vraiment appliquer ce que nous avons, que tu veux nous parler aujourd'hui, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. L'épître aux Romains et l'auteur, c'est Paul. Paul, à l'époque, il a écrit cette épître aux chrétiens de Rome depuis Corinthe. Le thème général de cette épître, c'est la justification par la foi. Les chapitres 1 jusqu'à chapitre 11, Paul présente les vérités centrales de cette doctrine. Ensuite, dans les chapitres 12 jusqu'à chapitre 16, Paul indique aux chrétiens et l'Église la conduite qu'ils doivent avoir, qui soit conforme avec leur identité de l'enfant de Dieu, après avoir reçu tout ce que Dieu a fait pour eux. Aujourd'hui, j'ai choisi ce chapitre 12, les deux versets, pour voir avec vous l'exhortation de l'apôtre Paul. J'ai divisé ces deux versets en trois points principaux. Les trois points principaux, premièrement, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Deuxième point, ne vous conformez pas à ce monde. Troisième point, laissez-vous renouveler. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons voir ensemble le premier point, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi ? Quand nous avons lu tout à l'heure le verset 1, il y a le mot « je vous encourage donc ». Le « donc », ça fait suite au verset du chapitre 11. Donc, je prends la Bible et lire avec vous, parce que là, le PowerPoint, pour l'instant, ça marche pas. On va lire simplement le Romains 11, versets 33 à 36. Même quand la technique ne marche pas, on peut quand même continuer. Ça marche? Ah oui. Mais ici, ça, oui. Alors, je vais prendre la... Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes, qui pourrait expliquer ses précisions, qui pourrait comprendre ses plans. Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Donc ici, Paul rappelle aux chrétiens à qui il a écrit que toute chose doit rendre gloire à Dieu. Ça, c'est la première raison pourquoi nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Oui. Merci, Bernard. La deuxième raison, c'est quand nous avons lu tout à l'heure, par les compassions de Dieu pour nous. Mais dans le Semeur, je préfère la version du Semeur dit, à cause de cette immense bonté de Dieu. Voilà. Pourquoi nous devrons offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Parce que toute chose doit rendre gloire à Dieu et à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons chanté tout à l'heure, nous savons que nous sommes tous des pécheurs qui ne sont pas dignes de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Nous sommes condamnés à être séparés éternellement pour toujours de Dieu, de ses bienfaits, de sa grâce. Mais Dieu, dans son immense amour, c'est ce que Paul nous a dit, dans Romains 5, 8. Je vous invite de lire avec nous, avec moi. Mais Dieu nous a prouvé à quel point qu'il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà. Paul nous rappelle toujours que nous, nous sommes des pécheurs. Donc, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que Paul a écrit aussi dans Éphésiens. Avant de poser les fondations du monde, Dieu a déjà choisi dans son plan de salut, nous, à travers le sacrifice que son Fils a offert à la croix. Christ s'est offert une fois pour toutes pour être un sacrifice d'expiation, pour expier nos péchés. Ça veut dire son sacrifice satisfait l'exigence de Dieu envers les pécheurs. Par notre foi en sacrifice de Christ, Dieu nous déclare juste et fait la paix avec nous et nous adoptons comme son enfant. Tout cela vient de Dieu. Tout le plan de salut, du début à la fin, ça vient de Dieu. C'est le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui ont accompli. Nous, nous n'avons rien fait, nous avons juste reçu tout ça par grâce. Et aussi, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, nous n'avons rien à nous vanter. Tout ce que nous avons à faire, vraiment, c'est un cœur reconnaissant de vraiment lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alors, pourquoi vivant, sacrifice vivant? Que signifie offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Alors, par opposition dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a choisi le peuple Israël. Dieu veut vivre au milieu du peuple Israël. Mais il y a un problème. Le peuple Israël, ils sont tous pécheurs comme nous. Donc pour régler ce problème de péché, Dieu a instauré des règles d'expiation. Il y a un jour qui s'appelle le Yom Kippour. C'est un jour d'expiation annuel. Donc, tout le peuple se rassemble devant le temple de Dieu, le tabernacle, et le sacrifice, le grand sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang du bouc, d'abord pour lui, pour expier son péché, ensuite avec le deuxième bouc, pour expier le péché du peuple. Comme le sang de l'animal n'est pas suffisant, donc il doit renouveler cette expiation chaque année. Mais merci, grâce à Jésus-Christ, merci à Dieu, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes son corps. Il a porté nos péchés sur lui. Il a expié les péchés à la fois commis autrefois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Comme nous dit dans Hébreux 10, 18, son expiation, son sacrifice d'expiation, c'est offert et suffisant et unique, une fois pour toutes. Donc, puisqu'il y a pardon du péché, il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice d'animaux. Mais maintenant, nous qui sommes des chrétiens, qui sont on va dire, moi je considère, je suis un pécheur pardonné, sauvé. Donc, la meilleure réponse à l'amour de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, c'est vraiment d'offrir toute mon être entière à Dieu pour répondre à son amour, à sa bonté, à sa compassion. Alors, Christ, Jésus nous a donné ce que ça veut dire vraiment sacrifice vivant. Offrir notre corps. Matthieu 16, 24. Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. » C'est clair. Dans Matthieu 16, vraiment, ici, Jésus prévient ses disciples, si vous me suivez, ce n'est pas une vie une fleuve tranquille. il y aura des épreuves, des difficultés. Bien sûr, il y a les bénédictions spirituelles, des bénédictions divines. Mais voilà, il y a deux choses. D'abord, renoncer à soi-même. Ensuite, charger sa croix, porter sa croix, et ensuite suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à lui-même? C'est renoncer à mes désirs, à mes habitudes, toutes mes idées, toutes les pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. On peut dire que c'est vraiment le vieux moi qu'on avait, la mauvaise habitude de vie, mauvaise pensée, tout ça. Il faut vraiment dire non à chaque fois. Chargé de sa croix. Nous avons vu que Jésus s'est chargé de sa croix, arrivé jusqu'à Golgotha et crucifié. Bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas de lui offrir notre vie, toujours, à tous les disciples. Simplement pour dire de s'engager, il nous demande un engagement total, sans retour. On ne doit pas faire demi-tour. C'est vraiment entier et profond, totalement. On doit connaître le prix à suivre Jésus. C'est souffrir avec lui en même temps que recevoir sa grâce. Paul nous a dit dans Philippiens 1. Dieu nous a donné la grâce non seulement d'être bénis avec lui, mais de souffrir pour lui. Donc vous voyez, souffrir, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Bien sûr, pour nous qui sommes les êtres fragiles, souvent quand on souffre, souvent on demande au Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir? Comme Paul l'a demandé, il a prié 3 fois pour que le Seigneur lui enlève l'écharpe, mais le Seigneur a répondu, non, ma grâce te suffit. Voilà, c'est ce qui m'arrive aussi. Moi, je trouve que Paul, que le Seigneur m'a donné une écharpe pour moi, elle est toujours là. Et je ne prie pas que le Seigneur enlève l'écharpe. Je lui demande simplement de me donner le courage et la patience pour vivre cette épreuve. Et après, quand je suis sortie de cette épreuve, je lui rends gloire. Cela sert vraiment à chacun de nous un devoir à faire. Donc, résumé, offrir son corps comme sacrifice vivant, ça veut dire que je ne suis plus maître de ma vie. Je ne fais plus ce que je veux. Parce que même, c'est Jésus qui est le maître de ma vie. Et je, à la place de faire ma volonté, ce que je veux, je vais faire ce que Jésus veut que je fasse. Je vais suivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Vous allez me dire, je suis d'accord avec vous. Même moi, dans mes premières années de disciple de Jésus, je n'ai pas compris ce que ça veut dire renoncer à lui-même, se chercher à quoi. Souvent, je suis fière. J'étais dans mon église avant, dans les 2-3 premières années de ma conversion. Je dis souvent aux autres, tu sais, je fais ce que je veux. Je suis mon maître et je décide ce que je veux. Et il y a une sœur, elle est très douce, et puis elle me regarde, elle m'a rien dit, elle m'a juste regardé, et puis elle a un sourire qui me fait, j'avais compris que c'était pas bon, quoi, ce que je lui ai dit. Mais elle m'a pas trop expliqué, et merci à Seigneur, parce que au fur et à mesure, je lis la Bible, et j'ai compris que, comme je vous dis tout maintenant, j'ai compris que je ne dois plus être mon maître. C'est Jésus qui m'a donné la vie spirituelle nouvelle, donc je dois lui confier cette nouvelle vie. Il ne m'appartient plus à moi. Voilà, donc maintenant je sais, je ne dis plus, Seigneur, je fais ce que je veux. Je demande au Seigneur ce que je dois faire. Souvent, je remets tous mes projets à l'Éternel. C'est ce que le psaume 37 qui nous a proposé. Donc, vraiment, c'est vrai, c'est pas facile. Mais, par la discipline, par la volonté, notre volonté qui s'accorde avec la volonté de Dieu, Dieu peut nous aider à y arriver. Nous voyons maintenant le deuxième point. Ne vous conformez pas au monde actuel. Pourquoi? La Bible nous a enseigné beaucoup de vérités sur ce que c'est ce monde actuel dont nous vivons. D'abord, Jésus lui-même nous l'a dit. Dans Jean 18, 36, quand Jésus est comparé devant Pilate, après avoir été arrêté par les Juifs, Pilate lui a posé des questions, lui demandait qui il est. Lui dit que j'ai le droit de de décider ta mort et ta vie. Jésus lui répond, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc ici, c'est clair. Jésus a dit à Pilate ainsi qu'à ses disciples que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, n'est pas de ce monde que nous vivons actuellement. Parce que ce monde est déjà corrompu, perverti par la chute. Et ce monde actuellement, avec l'autorité de Dieu, est encore sous le contrôle du prince de ce monde, dont Satan. Ensuite, dont Paul nous a dit, dans Éphésiens 2, versets 1 à 2, Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse que autrefois, avant d'être chrétien, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc ça, Paul nous rappelle ce que nous étions autrefois, avant d'avoir Christ dans notre vie. Nous étions des ennemis de Dieu, nous étions les rebelles, et nous agissons conformément aux pensées du prince de ce monde. Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, j'aime beaucoup ce verset. Jean nous dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ici, Jean nous montre bien les trois choses qui sont mauvaises, qui appartiennent dans le monde. La convoitise qui est dans l'homme, je préfère dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Est-ce que c'est vrai? Nous avons toutes ces choses-là en nous. Moi, je les ai. Je pense que chacun de nous reconnaît. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui peut rapporter un réconfort, un plaisir à notre corps. Quelqu'un qui mange beaucoup, qui fume beaucoup, qui est addict à la drogue ou du point de vue rapport sexuel ou sinon tout ce qui rapporte le plaisir du corps, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, je pense que ça parle plus à nous les sœurs quand nous faisons les lèches-vitrines. Nous regardons les choses exposées et quand c'est des sols, souvent les gens ils font la queue pour y aller. Voilà, ça c'est... Même si dans notre placard, il y a déjà plein de choses, on n'arrête pas d'acheter. Pour les frères, peut-être ce sont des voitures, je ne sais pas, ou des chaussures. En tout cas, ça convoitise des yeux, tout ce qui est richesse. L'orgueil, je suis plus fort que vous, je suis plus intelligent que toi, je suis plus doué, voilà. Donc, et en fait, Satan, il sait très bien toutes ces choses-là. Et dans Matthieu 4, 4, quand il a tenté Jésus dans le désert, après les 40 jours de jeûne, il a utilisé les trois tactiques pour tenter Jésus. Est-ce que vous vous souvenez? La première fois, il a demandé au Seigneur, si tu as faim, ordonner à cette pierre de venir le pain. ça, ce qu'on retire de la chair. Le Seigneur lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre pain quotidien. La Bible, c'est très bon. C'est à la fois l'entrée principale, le fromage et le dessert. Je vous jure, je l'ai fait, je l'ai mangé. Je pense que les autres frères et sœurs qui ont mangé, ils vont vous confirmer. Ensuite, la deuxième, dans l'ordre, Matthieu et Luc, ils ont changé l'ordre. Satan l'a amené sur le toit latin du temple et dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, saute. Dieu va envoyer ses anges pour te soutenir. Mais Seigneur a dit, tu ne tenteras pas Dieu. Donc ça, c'est l'orgueil. La troisième tentation, Satan l'a amené sur la montagne, lui montrait toutes les richesses partout. Et lui a dit, si tu veux avoir tout ça, bah, agenouille devant moi, adore-moi. Mais Jésus répond, tu adoreras Dieu de tout ton cœur et toute ton âme. Vous voyez, donc Satan l'a tenté Jésus sur ces trois tentations. Tentation de la chair, des yeux, tentation des yeux et l'orgueil. Et comment Jésus l'a réfuté? Par quoi? Par sa parole. La parole de Dieu est puissante et vivante. C'est comme une épée à double tranchant, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens. L'épée, c'est très bien si on sait s'en servir. Si on ne lit pas la parole de Dieu, et si on ne retient pas la parole de Dieu, comment on peut s'en servir? C'est comme le chevalier. Il a beau avoir une épée, mais s'il ne s'entraîne pas tous les jours de l'attaque, en combat, il va faire demi-tour. Pour nous, c'est pareil, nous, on est soldats en Christ. En plus, l'épée, comme dit l'apôtre Paul, c'est pas seulement pour se défendre, mais on peut faire fuir l'ennemi. C'est ce que le Seigneur l'a fait. C'est pour ça que quand je suis avec les groupes de jeunes, j'arrête pas de répéter. Lisez la Bible, retenez la Bible, c'est bon pour vous. Mais Clément, il m'a dit, arrête de dire ça, tu vas aller dégoûter. Mais je n'écoute pas mon fils. Bon, cette fois-ci, j'ai continué à le dire. Je trouve que c'est bon. Les parents, c'est pareil. Quand on veut des bonnes choses pour vous, peut-être des fois, on vous allez dire, ouais, surtout les mamans répètent tout le temps. Mais si on répète tout le temps, mais vous voyez, dans la Bible, souvent, Jésus il répète plusieurs fois. Qu'on répète trois fois la même chose, ça veut dire que c'est très important pour vous. Donc moi, pour les jeunes que je suis, que j'enseigne, je répète jusqu'au jour où ils vont dire « Ah oui, Yann m'embête pour ça, je vais le faire. » Là, s'il arrive à lire, bah, je lâche, je ne lis plus. Voilà, donc ce que je vous montre, c'est vraiment examinez-vous dans les trois choses. Il y a peut-être certains qui est plus fort dans l'un et l'autre dans l'autre. Soumettez, crucifiez-le à la croix. Ensuite, juste dans l'hébreu, j'ai résumé ce que dit l'hébreu 11, versets 13 à 16. Ça veut dire, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Notre patrie n'est pas de ce monde. Comme le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce que nous attendons, c'est la cité céleste que Dieu prépare pour nous. Et Paul l'a dit dans Corinthiens aussi, que les choses invisibles sont éternelles et glorieuses. Les choses visibles de tout ce que nous possédons, tout ce que nous voyons, sont des choses visibles, mais elles sont temporaires et vraiment va disparaître. Voilà, pourquoi ne pas conformer à ce monde? Et réellement, pour voir Je trouve qu'en entrant dans le 20e siècle, les pays qui avant étaient chrétiennes deviennent de moins en moins. Vous êtes d'accord? Je pense à tous les pays d'Europe, aux États-Unis. Prends quelques exemples. Avant, en France, la IVG, interruption volontaire de la grossesse, était d'abord autorisée que dans les cas médicaux. Ça veut dire quand la mère, quand les parents constatent que l'enfant porté est anormal, là, ils ont autorisation de avorter. Ensuite, ça s'est généralisé à tous les, même s'il n'y a pas d'anomalie du fœtus, c'est autorisé. Avant, ils ont fixé une date de la grossesse, et maintenant, ça, il n'y a plus de, pratiquement, avant, l'avortement, ça doit se faire dans les hôpitaux. Mais comme la demande est de plus en plus en croissance, l'hôpital n'arrive plus à satisfaire ses besoins, on va dire. Et il autorise aux médecins généralistes à le faire, à le pratiquer, l'avortement. Maintenant, je ne suis plus mon cabinet. À l'époque, quand j'avais mon cabinet, on m'a proposé de se faire former pour travailler comme ça. Mais moi, je ne suis pas allée faire cette formation parce que moi, je suis chrétien. Donc, je ne peux pas dire déjà le faire. Et à chaque fois quand une femme, un couple, venir me voir pour avorter, je vais leur vraiment donner plein de raisons pour qu'ils gardent leur enfant. Une fois, une jeune femme qui est venue me voir, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois qu'elle veut avorter. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle elle est actrice. Alors, elle, le fait d'être enceinte, ça l'empêche de sa forme. Donc, pour pouvoir travailler, pour garder sa forme, c'est le bébé qui est. Et là, cette fois-ci, pourtant, c'était pas ma malade à moi que je connaissais. Je l'ai vue pour la première fois. Je me suis mis en colère. Je l'ai respectée. J'ai fait la morale. J'ai dit, vous rendez compte? C'est une vie en vous qui est en vous. Et vous jouez comme ça parce qu'à cause de votre beauté, votre forme, et vous pas seulement une fois, deux fois, maintenant c'est la troisième fois. Et pourtant le mari est d'accord de garder l'enfant. J'étais scandalisée, je l'ai engueulée et je ne sais pas si comment elle a décidé après, mais en tout cas voilà, vous voyez où en sommes-nous maintenant. Les femmes là-dessus, c'est les femmes pour garder leur plaisir, ou je sais pas comment dire. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est immoral. Maintenant, les gouvernants sont en train de légaliser. Par exemple, l'homosexualité. C'est légal. Et pour l'addiction à la drogue, je ne sais pas si vous êtes au courant, le gouvernement veut ouvrir les centres. Ils appellent ça des intoxications. Les centres. Il permet aux drogués de venir et de se faire, de se droguer. Et c'est nous, nos impôts, qui va dessus. C'est pas encore, mais nous vraiment prions pour que c'est vraiment des choses. En Hollande, ça s'est déjà fait, mais pas encore en France. Vous voyez, plein de choses comme ça. Et il y a aussi l'euthanasie. Vous savez où est-ce qu'on peut le faire légalement? Oui, où? En Belgique? En Suisse aussi. Mais il faut avoir beaucoup d'argent, hein. Sinon ça peut pas se faire. Il faut payer beaucoup. Bref, voilà, c'est franchement toutes ces choses que Dieu considère comme immorales, les responsables politiques considère que c'est pas grave. Dans ce monde de post-moderne, les gens n'acceptent plus la vérité absolue qui vient de Dieu. Les rapports sexuels avant le mariage. Si tu es comme ça, ils vont dire, ils vont te regarder avec un œil. Moi, j'avais des jeunes lycéens de 13, 14 ans qui sont venus me consulter, me demander de prescrire la pilule. Donc, voilà, plus on avance, de toute façon, la Bible nous prévient. Hein, Paul dit que dans les derniers jours, c'est de pire en pire. Donc, vous voyez, là, en ce moment, notre monde, on fait la course pour tout, non? Vous êtes d'accord? Course à l'argent, course à la rentabilité, course à production. On veut toujours produire plus. Après, on vend pas, on les jette. Course à la consommation. Les machines, quelles que soient les machines, lave-linge, tout ça. Avant qu'on l'achète, elle dure 10 ans, 20 ans. Et maintenant, si elle peut durer 5 ans, c'est déjà bien. C'est vraiment pour consommer. Avant, les gens travaillent pour économiser. Les gens ne dépensent pas beaucoup. Mais maintenant, les banques, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des publicités d'emprunt partout. On excite des gens d'emprunter, même ceux qui n'ont pas les besoins, ceux qui habitent, qui n'ont pas de salaire pour payer des grands écrans, mais je vais chez eux en visite, ils ont des grands écrans, plus grands que chez moi. Tout le monde veut partir en vacances. Si on part pas en vacances, c'est la honte. C'est un monde qui court à loisir. Alors que Dieu, quand il a créé Adam, quand il a mis dans le jardin Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez le jardin et cultivez. C'est un travail. Et même quand il est chassé du jardin Éden, Dieu l'a dit, cultivez la terre. Donc Dieu nous crée pour travailler. Pas pour à la farniente. Et avant, on chantait, travailler, c'est la santé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on chante encore? En chômage, c'est la... Pas en chômage, mais ne pas travailler. C'est cool. En tout cas, notre société ne nous incite pas à travailler. Bref, bon, vous voyez? Et maintenant, je viens de constater qu'il y a un jeu qui court partout, là. C'est un jeu de quoi? Voilà. Je sais pas comment ça joue, mais on me raconte, ils sont en train de chercher les Pokémon virtuels, c'est ça? Mais je trouve que c'est ridicule pour moi, je comprends pas. Comment les gens peuvent avoir le plaisir à trouver quelque chose qui est virtuel, qui sont même pas réels? Puis pareil, tous les jeux, excusez-moi si j'offense quelqu'un, tous les jeux de l'écran, pareil, comment les jeux peuvent être attirés à jouer 10 heures, 12 heures, 5 heures ou 6 heures dessus? Ça apporte quoi, réellement? Je ne sais pas. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Pour moi, c'est franchement des choses qui ne méritent pas. C'est des choses vaines. Et ça, c'est les ruses de Satan. Justement, il veut qu'on soit tous là-dedans. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser. On a juste le temps de consommer, de courir, suivre les tendances de ce siècle. En 2013, j'ai acheté mon portable. C'était la première de S4. Maintenant, on est en 2016. C'est déjà S7. Alors, est-ce qu'on va suivre à chaque fois, il sort un, on jette l'autre, on achète un autre, voilà, quoi. Satan nous donne plein de choses pour nous attirer, pour nous éloigner de Dieu, pour ne pas être auprès du Seigneur. Hein. Voilà. Donc, c'est pas facile, je conçois. Dire non à tout ce que le monde nous propose. Il y a tellement d'attraits. Il y a même des banques, ils te disent, je te prête l'argent, pendant 3 mois, t'as pas besoin de rembourser, mais après, bref. Voilà. Il y a des années, à cause de ça, que les États-Unis, il y a eu une histoire de faillite. Bref. En tout cas, les gens ne pensent plus à économiser. Et puis, les tours. Vous avez pensé, les tours, les gratte-ciels? à Taipei, je ne sais plus en quelle année, la tour 101, c'est la plus haute. Ça n'a pas duré quelques années, je suppose. Et maintenant, c'est où? C'est Dubaï? Shanghai s'était dépassé aussi. Ils sont en train de refaire ce que le Seigneur a brouillé dans Genèse 11, la tour de Babel. Voilà. L'Ecclésiaste a raison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous pareils. Voilà. Donc, ce monde est déchu et foutu. Mais ce n'est pas dire que ne plus faire des plaisirs pour vous-même, mais simplement ne pas exagérer. Faire vraiment ce que nous avons besoin seulement. Du coup, les gens, je pense que c'est vraiment, ils courent derrière ces choses-là. Moi, ça m'a fait rigoler une fois quand j'étais à Hong Kong. Il y a une Chinoise, elle jouait tellement son Pokémon. On l'a volé son sac à main, elle ne sait même pas. Elle ne savait pas. Vous voyez? C'est franchement. Bref. Alors, donc, vraiment, voilà. Pourquoi Paul nous demande de ne pas conformer à ce monde. Surtout ne pas modeler par leurs pensées. Ne pas suivre leurs pensées. Ensuite, le troisième point. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que avant la conversion, nous étions comme les païens. Ça veut dire les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc là, je vais lire. Je sais pas. Avant la conversion. Et Paul nous a partagé ici pour nous dire que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Paul explique avant qu'on soit converti, avant qu'on reçoive le Saint-Esprit, qu'on devienne chrétienne, on ne n'accepte rien qui vient de Dieu. Et c'est normal quand nous parlons de Jésus à quelqu'un, souvent les gens disent non merci, je ne veux pas. Même surtout les Français, comme le samedi matin quand je sortais évangéliser avec Samuel, Laurent ou d'autres. Ils nous voient approcher avec la Bible, ils nous fuient de loin comme si c'est la peste. Non, merci, j'ai pas de temps. Voilà, vous voyez, ils n'acceptent pas ce qui vient de Dieu. C'est normal, nous, on était pareil. Moi, avant ma conversion, ma sœur était chrétienne, ma sœur qui est plus jeune, elle me parle de Jésus, elle dit non, merci. Laissez Jésus de son côté et moi, je suis ma vie de mon côté. J'ai pas besoin. Et donc, pareil, Éphésiens 4, Paul nous rappelle comment nous étions. Alors, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés aux vices et commettent sans aucune retenue, toutes sortes d'actions impures. Je trouve que c'est vraiment vrai. Hein. À l'époque, les gens qui n'ont pas de travail, ils ont honte encore. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas travailler, mais toucher le RSA ou RMI. Et puis, j'ai l'impression que le voleur, ça devient une profession. Les gens, ils disent... Vous voyez, avec toutes les techniques high-tech et tout, t'as les gens, ils préfèrent utiliser l'intelligence pour voler les gens, arnaquer les gens, que de travailler, comme dit Paul, honnêtement, de leurs mains pour gagner la vie. Ils n'ont aucun sentiment de honte. Voilà ce que nous avons. C'est pour ça que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit. À la conversion, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui change notre cœur, qui nous transforme, qu'on puisse vraiment comprendre ce qui vient de Dieu. C'est ce que dit Paul. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. C'est pour ça que je pense que tout le monde est d'accord. moi, après la conversion, j'ai vu que ma vie tout entière, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, Dieu m'a donné vraiment, m'a béni, quoi. Béni par sa grâce. Sans esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les choses faites par Dieu. Et ensuite, Paul exhorte aussi aux Éphésiens, vous voyez, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, donc quand nous étions païens, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il vous faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu, qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Donc ici, Paul nous dit, vraiment, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être renouvelés dans notre cœur et notre esprit. Le cœur, c'est la plus importante partie de notre personne. Dans Proverbes 4, 23, Dieu nous dit, garde ton cœur, c'est de là vient toute source de bonheur. Voilà. Et là, ce que Dieu veut qu'on soit, il nous a donné une vie spirituelle nouvelle. On doit ressembler à Dieu, ressembler à Christ pour avoir une vie juste et sainte. Voilà. C'est pour ça que vraiment, alors, premier point, offrez notre corps comme un sacrifice vivant. Deuxième point, ne vous conformez pas à ce monde. Ces deux points doivent être dépendants du troisième point. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous ne sommes pas transformés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et nous ne pouvons pas ne pas conformer à ce monde. Donc, vraiment, frères et sœurs, tous ensemble, pour y arriver, vraiment, nous avons besoin de dépendre de Dieu, du Saint-Esprit et aussi de nous-mêmes. C'est le culte personnel. Lire la Bible quotidiennement. Pas seulement lire. C'est vrai, je vous le répète souvent. Retenez pour pouvoir méditer. Quand vous êtes dans le RER, quand vous êtes dans le métro, ou quand vous faites la queue au supermarché, laissez la parole de Dieu travailler dans votre cœur. Comme ça, à chaque fois, vous avez, soit c'est vous, si Satan vient nous tenter, on peut avoir l'épée tout de suite, ou nous-mêmes qui nous tentent, pareil. Parler à nous-mêmes, moi souvent j'essaie de parler à moi-même par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, est puissante, agissante, transformer notre pensée. Voilà, donc vraiment, disciple de Christ, ça veut dire discipliner. Ça ne fait pas très plaisir, mais si on commence à prendre un quart d'heure, tous les jours, tous les matins, à lire la parole de Dieu, à méditer, à retenir. Vous allez voir de plus en plus, vous allez augmenter hein, d'un quart d'heure à 20 minutes jusqu'à une heure. Et là, je dirais, gloire à Dieu. Vraiment, sans la parole de Dieu, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas suivre la volonté de Dieu. Parce que venir chanter la louange, écoutez le message une fois par semaine, mais le reste du temps, si vous lisez pas si vous mangez pas cette nourriture, comment vous allez faire face à tous les attaques de l'ennemi ou de notre vieux cher? On n'y arrive pas. Et aussi la communion fraternelle avec les frères et sœurs, demander aux frères et sœurs de prier pour nous sur certains points, nous sommes faibles. Et c'est tous ensemble, on s'encourage les uns les autres. Dans le groupe de maison, c'est bien, parce qu'on se retrouve une fois par semaine, c'est super bien aussi. On a besoin de vivre tout cela, les uns avec les autres, mais chacun de notre côté. Tout à l'heure, nous avons chanté, Seigneur, mon seul bien, tout mon bien, mon souhait, c'est être près de toi. Mais pour être près de Jésus, pour prendre du temps. Si je cours tout le temps vers Pokémon, vers les shopping, vers vers autre chose, je ne peux pas être assis au pied du Seigneur. Donc, il y a un temps à tout. C'est vrai, on doit faire les courses, on va faire les repas, tout ça, mais offrir notre meilleur, vraiment notre temps au Seigneur. Le Seigneur ne demande pas seulement l'offrande en argent, mais offrir notre corps comme sacrifice, c'est notre corps entier. Donc vraiment, c'est pas facile. Je conçois, je suis d'accord avec vous. Mais si nous avons décidé de le suivre, le Seigneur est bon. Paul l'a dit. Il a dit, je suis persuadé que l'œuvre que le Seigneur a commencée en vous, il la mène à la perfection, à son aboutissement. Voilà. Donc vraiment, c'est pas facile. Mais tous les jours, je répète à moi-même, renoncer à toi-même, porter la croix et suivre Jésus. Si on répète tout le temps, on a la parole de Dieu qui est en nous, on est rempli de sa parole, on va pas suivre le pensée du monde. Hier soir, j'étais... Clément n'est pas là. Hier soir, j'étais à un mariage non chrétien. C'est le fils d'une amie à moi. Une amie à moi. Ils ont le jeu, là, c'était... Ils passaient des musiques et tu dois deviner quelles sont soit l'émission de la télé, soit le chanteur, soit le... Bref, mais moi, j'ai rien connu là-dedans. Mais parce que je me suis dit, j'ai pas honte, parce que je me suis dit, j'ai pas perdu mon temps à regarder ces feuilletons, ces chants qui m'apportent rien du tout. Voilà, c'est à nous de faire un choix. Le temps est limite, nous avons 24 heures. Enlever le sommeil, enlever le travail, il nous reste combien de temps? Est-ce que ce temps que le Seigneur nous laisse, nous allons le consacrer quand même une partie à lui, ou seulement à tous nos désirs pour satisfaire encore, soit convoitise de la chair, soit convoitise des yeux? Voilà, que vraiment, demander, prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Là, je pense qu'on a le temps. Je vous propose, vous mettez en par deux ou par trois, et voilà. Aujourd'hui, qui est ton maître? Est-ce que c'est toi qui es ton maître ou c'est Jésus qui est ton maître? Est-ce que tu soumets tout le temps, totalement à lui? Et s'il est ton maître, est-ce que tu soumets tous les domaines de ta vie à Jésus-Christ? Je vous laisse 5 à 10 minutes. Après, il y a, si vous voulez, qu'un un ou deux qui veut partager. Mettez-vous en par deux, par trois. Aujourd'hui, qui est ton maître? Qui est le maître de ta vie? C'est bon? Ça va? Vous êtes bien partagé? Alors, qui est ton maître? Est-ce qu'on peut dire tous, Jésus est mon maître? Oui? Amen. Mais alors, comme je dis à Michael, est-ce que Jésus est mon maître à 100%? Déjà, je vous dis, pour moi, ce n'est pas encore 100%. Voilà, donc on a encore à atteindre les 100%, n'est-ce pas? Peut-être, je ne sais pas, peut-être je suis à 60%, on va dire. Où en êtes-vous? Si vous êtes à 40%, bah, montez chaque jour jusqu'à, je ne sais pas, est-ce qu'on arrive à 100%? J'ai l'impression que l'apôtre Paul arrive. Voilà, donc encourageons-nous les uns les autres. Est-ce qu'il y a une personne qui veut partager de ce que vous avez... discuter? Non? Non? Bon, d'accord. Alors, on va conclure. Donc, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a pu écrire cette épître de Romains. Et c'est à travers cette épître que nous avons compris vraiment clairement ce que c'est la justification par la foi, avec l'autre épître de Galates. Et grâce à cela que Luther, quand il a lu la justification par la foi, c'est suite à Luther, ça c'est il y a protestant, quoi. Voilà, donc vraiment, nous savons tous que nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que nous rappelons chaque jour que nous sommes vraiment rachetés par la vie du Christ? Et la seule, pour ma part, la seule réponse raisonnable, logique à Dieu, c'est vraiment d'être reconnaissant, de lui offrir vraiment notre vie entière, lui confier notre vie, lui dire « Seigneur, sois mon maître, prends tout le contrôle de tous les domaines de ma vie. Même des fois, je ne veux pas, mais arrache-les, coupe-les. » Comme dit Jésus dans Jean 15, le Père, il taille les sarments pour qu'ils portent plus de fruits. Tailler, ça fait mal. Mais la correction de Dieu, ça peut faire mal sur le champ, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sur le moment, probablement, on ne comprend pas. Mais si on soumet, on persévère, on fait confiance à Dieu et ne pas douter de Dieu. Surtout, ne pas douter de Dieu. C'est ce que Satan veut qu'on fasse. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, vraiment, croire à la bonté de Dieu. La Bible nous raconte plusieurs fois, de nombreuses fois, « Car ta bonté dure éternellement, ta fidélité d'âge en âge. » Et Jérémie, il a dit, « Voici ce que je veux me rappeler pour garder confiance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne prend pas fin. » Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. Voilà. Ça, je les récite à chaque fois. J'ai des épreuves et je commence parfois à commencer à me plaindre. Là, je répète ce verset à moi-même et pour que vraiment je vois que la bonté de Dieu est grande. Voilà, vraiment, frères et sœurs, pour la rentrée, pour le 2016, je vous partage ce passage. C'est pour que tous ensemble, nous soyons vraiment encouragés, tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, parce que nous avons un seul Seigneur, un seul corps, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance, un seul Père, un seul esprit. Donc nous devons vraiment vivre cette unité dans l'amour et dans l'obéissance à Dieu. Bien sûr, par nos forces, par nos efforts, nous n'arrivons pas, mais comptons sur le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous guider, diriger, convaincre de nos péchés. À chaque fois qu'il nous convainc de nos péchés, n'hésitez pas d'aller présenter, demander pardon au Père. Il nous pardonne. Mais ne fais pas de ce pardon, comme dit Paul, c'est pas parce que la grâce est beaucoup, on va pécher plus pour abuser. Non. Vraiment, comptons sur Dieu, mais vraiment avoir ma prière chaque jour, c'est avoir un cœur ample, doux, obéissant, soumis à sa volonté, que nous tous puissions y arriver, tous ensemble, pour que, comme c'est Christ qui gouverne notre vie, nous allons pouvoir aimer les autres comme il nous a demandé et que les autres, voyant cela, ces bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu le Père. Prions ensemble. Abba Père bien-aimé, merci pour ce message. Tu nous as donné vraiment tout ce que tu as fait. Tu nous as fait connaître tout ce que nous devons connaître. Nous n'avons aucune excuse, Père. Nous savons que tu nous as aimés par le sacrifice de ton Fils à la croix, alors que nous étions encore des pécheurs. Père, donne-nous aujourd'hui vraiment le cœur obéissant, doux, humble, pour vraiment soumettre à ta volonté, se faire guider vraiment, laisser guider par l'Esprit Saint, pour vivre une vie qui est agréable, saine, conforme à ta volonté. Je prie au nom de Jésus. Amen.